Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, à l'occasion du lancement et pour décrypter cet objet un peu mystérieux et fascinant qu'est le Military Balance, dont l'édition 2020 vient de sortir, j'ai le plaisir de recevoir deux de ses acteurs ou de ses artisans que sont François Hesbourg et Johan Michel. Alors, François Hesbourg, je pense que beaucoup des auditeurs vous connaissent, ou au moins vous connaissent votre nom, du fait d'une longue et illustre carrière dans le monde de la diplomatie et de la défense, entre le secteur public, le privé et certains think tanks ou organismes de recherche. Vous avez été notamment directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique, dont vous êtes encore conseiller spécial auprès du président aujourd'hui. Et pour ce qui nous intéresse au premier chef, vous avez été le directeur de l'International Institute for Strategic Studies, l'IISS, qui édite et produit cette somme chaque année qu'est le Military Balance, dont vous êtes aujourd'hui conseiller pour l'Europe. Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour.
Et Johan Michel, vous êtes vous-même chercheur au sein de l'IISS, plus particulièrement spécialisé, je crois, sur les équipements et les forces terrestres, pour le Military Balance notamment. Bonjour.
Bonjour Alexandre.
Alors, je suis très heureux de vous recevoir tous les deux parce que je pense que ça va permettre d'avoir deux regards très complémentaires pour expliquer ce qu'est cet objet, vraiment, je l'ai dit, assez étrange et assez fascinant qu'est le Military Balance et sur la manière dont on le produit, puisqu'il est important, voire très important pour les professionnels, mais il n'est pas forcément très largement connu. J'avoue que personnellement, je l'ai eu pour la première fois sous les yeux très récemment, notamment parce qu'il n'est pas forcément destiné à tout le monde, même s'il peut intéresser très largement, et on reviendra dessus, j'empiète déjà sur la question du public, mais qui est une partie importante de la discussion qu'on va avoir. Donc pour le dire clairement, le Military Balance, c'est la somme, le bilan, un peu de ce qu'on sait ou de ce qu'on peut savoir des forces armées dans le monde. C'est à la fois un livre et depuis quelques années une base de données en ligne qui permet de savoir qui possède quoi et comment. Alors j'ai essayé d'illustrer la chose, j'ai pioché un exemple totalement au hasard, mais si vous voulez connaître l'armée de la Grèce, par exemple, vous trouvez dans le Military Balance le budget, les effectifs exacts, mais aussi l'évolution sur plusieurs années, l'organisation de l'état-major, à peu près tous les modèles de frégates et d'hélicoptères qu'ils possèdent avec leur motorisation respective, les calibres de canons qu'on trouve dessus et les endroits où ils sont déployés à l'heure actuelle. Avec en plus, à chaque fois, des petits paragraphes qui permettent de comprendre les logiques sous-jacentes et aussi des analyses transversales qui expliquent les dynamiques d'une région donnée, mais aussi d'une génération d'équipements, par exemple, etc., etc. Alors, une fois qu'on a dit ça, et on reviendra sur l'usage qu'il est possible d'en faire, mais la question, c'est pourquoi et comment? Alors, ma première question, évidemment, c'est comment est-ce qu'est né le Military Balance et pourquoi faire? Alors, François Hesbourg, peut-être, je crois que c'est une histoire qui remonte, déjà il y a longtemps, qui remonte en fait au cœur de la guerre froide.
Oui, pourquoi est-ce que ça a été inventé? Ça a été inventé à la fin des années 1950, au cœur de la première partie de la guerre froide. Et l'objectif, c'était de donner une base objective à partir de laquelle pouvait se dérouler la discussion d'experts, mais aussi du grand public, sur la confrontation Est-Ouest. Et il faut bien se mettre dans la tête qu'à cette époque-là, il n'y avait pratiquement aucune donnée disponible dans le public autre que celle qui avait été lâchée au compte-gouttes par les Soviétiques ou les Américains pour montrer combien ils étaient forts, combien ils étaient intelligents dans la confrontation Est-Ouest. Et bien entendu, chacun des protagonistes visait des objectifs instrumentaux. Il ne s'agissait pas pour eux de créer la base d'un débat. Donc, un groupe de Britanniques, puisque ça démarre au Royaume-Uni.
On va préciser que l'ISS est encore aujourd'hui basé à Londres.
Oui, à Londres, à Washington, à Singapour, à Bahreïn. On s'est, entre guillemets, globalisé. On n'est plus du tout un institut qui, dans ses tout premiers temps, était effectivement purement britannique et qui cesse d'ailleurs de l'être dans les deux ou trois années qui suivent sa création, avec d'ailleurs, parmi les tout premiers présidents de l'ISS, notre compatriote Raymond Aron. Raymond Aron a été le président de l'ISS, ça fait partie des choses que l'on ignore en général sur ce grand philosophe et ce grand expert de la stratégie. Donc, c'est donc britannique à l'époque, ancien militaire, politique, homme d'église aussi, et se met en tête de constituer un petit compendium sur les fusées soviétiques, les fusées américaines, les bateaux, etc. Et en grappillant à gauche et à droite, en lisant les journaux, en discutant avec leurs amis mieux informés, car ayant travaillé dans tel ou tel ministère ou dans tel ou tel service. Tous ces gens ont fait la Deuxième Guerre mondiale, donc ça crée des liens. Et un tout petit fascicule d'une vingtaine de pages, dans mon souvenir, est créé, et c'était la première comparaison des arsenaux des deux superpuissances et de leurs principaux alliés. Aujourd'hui, on est...
Moi, j'étais en train de regarder.
Voilà. Vous avez compté le nombre de pages.
Il a un peu pris du poids. Il a un peu pris des hanches. Il est à 520, 530 pages.
Ah, oui. Et les pages individuelles se sont elles-mêmes alourdies. Densifiées, mais aussi littéralement alourdies, puisque maintenant, on fait de la quadrichromie. Et le papier pèse plus lourd. Et alors effectivement, pour le transporter dans son sac, c'est pas absolument, ce n'est plus absolument évident. Mais la philosophie est toujours la même. Travailler à partir de sources ouvertes, et le cas échéant, et les faire recouper, mais sans prendre le recoupement comme parole d'évangile. C'est-à-dire, si on fait les entrées sur la France, mettons, et y a un tas de choses dans le domaine public, donc on collationne, et comment on maintient à jour les séries. C'est en fait assez facile, une fois que vous avez lancé la mécanique pendant plusieurs années.
Joyeux Anne-Michel parce que je crois qu'il est... Enfin,
mais on va...
Les chercheurs transpirent quand même beaucoup pour...
Ils travaillent formidablement. Mais je veux dire, ce n'est pas quelque chose...
plus simple de mettre à jour que de mettre en place la première...
Mettons dans le cas de la France, ça ne relève pas franchement de la mission impossible. Mais on va consulter tel ou tel au ministère de la Défense, demander à... Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ils répondent ou ils ne répondent pas. Et s'ils répondent, on va s'interroger parfois pour savoir pourquoi ils répondent comme ceci ou comme cela, puisque chaque pays peut avoir ses propres raisons de vouloir mettre un bémol par-ci, un accent par-là. Mais on n'est pas prisonnier de ce que peuvent fournir les États, d'autant plus qu'il y a des tas d'États qui refusent totalement de jouer le jeu, et pas forcément les États les plus autoritaires.
Ouais, mais on va revenir là-dessus, sur ce jeu d'acteurs et sur ce que ça représente. Mais alors, justement, on a la base, donc il y a une base bloc contre bloc, guerre froide, donc d'essayer de poser les bases pour éventuellement s'assurer qu'on discute de la même chose, déjà. Mais du coup, comment est-ce que ça a évolué? Notamment, j'imagine que la grande étape, ça a été évidemment la chute du bloc communiste. Et vous étiez le directeur de l'ISS à ce moment-là, précisément. Donc, la question, François Hesbourg, c'est comment est-ce que la mission alors de l'ISS, bon, tous les think tanks ont été beaucoup travaillé à cette époque-là, mais comment est-ce que la mission du coup du Military Balance a évolué face à ce changement géopolitique?
Alors, la mission de recueil des données n'a fondamentalement pas changé. Par contre, la façon dont on organise les données, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, hein, et notamment avec la fin de la guerre froide et les divisions. Bon, les divisions de la guerre froide étaient des divisions géopolitiques. Le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, et les non-alignés se promenant un petit peu entre les deux, suivant une logique d'ailleurs, là pour le coup, plus strictement géographique. Mais avec la fin de la guerre froide, il a fallu qu'on se pose des questions un peu oiseuses du genre « Mais alors, le Kazakhstan, c'est où ? C'est à l'Est ? C'est au Sud ? Ou c'est en Europe ?»
Non, mais puis j'imagine que ça a dû être un vrai enjeu de recherche aussi. On sait qu'à l'époque de l'explosion de l'URSS, qui possédait les missiles, qui les a récupérés, comment le déterminer à partir de sources ouvertes en Europe non militaire, ça a dû être un sacré casse-tête quand même.
Non, ça a été difficile et compliqué parce que le paysage était littéralement éclaté. Mais c'était relativement direct parce que les sources, elles, s'étaient multipliées. Il ne manquait pas de gens pour expliquer...
vous voulez dire l'étau, disons, intellectuel et disciplinaire, c'était desserré?
L'étau informationnel s'était desserré. D'ailleurs, dès avant la fin, dès avant la chute du mur, quand les intellectuels de défense soviétiques, commencent à interpeller, dans le cadre de la glasnost, le complexe militaro-industriel soviétique, en fournissant, alors c'est là un des rôles historiques de la Military Balance, et en Union soviétique, tout était classifié. Et donc, pour avoir une discussion sur la stabilité des arsenaux nucléaires, par exemple, les soviétiques, à la limite, ils rendaient publics les discours américains, mais pas les leurs. Et donc, les experts soviétiques s'appuyer sur la Military Balance pour nourrir leurs propres articles mettant en cause la tendance du ministère de la Défense russe à se doter d'un nombre de missiles très supérieur à ce qu'exigeait même la doctrine officielle de défense de l'Union soviétique. Et donc là, la Military Balance, elle a vraiment joué un rôle. Le débat public, comme au départ, mais le débat public, non plus chez nous, mais du côté soviétique. Et comme cet instrument existe et que tout le monde le connaît, tous les experts des affaires de défense, qu'ils soient institutionnels ou non gouvernementaux, quelque part, aucun État, sauf peut-être la Corée du Nord, ne peut communiquer sur les questions de défense, sur leurs arsenaux, sans tenir compte du fait que Pierre, Paul ou Jacques peuvent se lever en disant « Oui, mais la Military Balance, elle dit que nous avons 25 sous-marins comme ceci et 23 fusées comme cela. Et qu'est-ce que vous nous racontez ?»
Oui, donc c'est un contre-pouvoir aussi par rapport à tous les discours. Alors du coup, la question aussi, parce que ça permet de parler de l'ISS, c'est quelle est la place aujourd'hui du Military Balance, disons, dans l'activité de l'ISS au sens large, c'est-à-dire est-ce que c'est une grande partie de l'activité quotidienne, c'est réactualisé en permanence, notamment puisqu'il y a une base de données qui est aujourd'hui en ligne, donc il y a disons une continuité informationnelle un peu qui permet de pas attendre la nouvelle édition. Yoann Michel, puisque vous êtes vraiment dans le cœur de la bête.
Ah, il est dans le réacteur.
Oui, alors en fait il y a plusieurs équipes hein, dans le de Balai de Blaise, puisque on mène plusieurs activités, on a plusieurs produits. Le Military Balance, c'est pas la seule production annuelle qu'on a. Hein. L'Armed Conflict Survey et bien d'autres qui prennent de. Y a des équipes spécifiques qui travaillent là-dessus. Nous, on est une bonne quinzaine à travailler tous les jours de l'année sur le Military Balance. Et donc pour nous, c'est de 80 à 70% de notre travail à l'année. Donc collecter les données, les croiser, les. les comparer, en discuter entre nous. Voilà, c'est une activité à temps plein, quoi. Et la suite de votre question, pardon ?
Non, mais c'était la place de l'ouvrage dans l'activité du think tank, parce que c'est un think tank qui ne produit pas que ça aussi, qui produit de la réflexion, qui produit de l'analyse transversale. Alors je l'ai dit, il y a de l'analyse transversale dans l'ouvrage, parce qu'il y a besoin d'expliquer, il y a besoin de donner du contexte pour ces chiffres. Mais voilà, disons, quelle est la place ? C'est-à-dire, en fait, très exactement, c'est aussi un truc que je trouve très anglo-saxon, dans le fait de trouver des chiffres, de compiler des chiffres, de faire des bases de données, avec lesquelles on est peut-être moins familier en France, parce que dans ma connaissance, il n'y a pas de choses équivalentes. Enfin, il n'y a pas de choses équivalentes au Military Balance, mais il n'y a même pas de projet, disons, comparable en France. Donc voilà, disons, quelle est la place de cette volonté de chiffrage et de statistique dans, disons, l'activité d'analyse du IISS.
Ben, je vais citer un exemple que j'ai en tête parce que c'était quelques mois après mon arrivée dans l'équipe. Plusieurs chercheurs se demandaient qu'est-ce que signifiait le fait que des navires russes venaient de quitter les ports de Syrie. Diverses analyses arrivent dans tous les sens, diverses personnes connaissant plus ou moins bien les questions navales. Ils évoquent tel ou tel signe diplomatique, jusqu'à ce qu'un de mes collègues envoie un mail à toute cette petite arène qui était en train de discuter pour dire « Attendez, non, ces navires-là sont absolument pas capables de faire ça. Dans sa collecte de données, il savait déjà qu'il y avait un exercice de planifier, il l'avait vu. Donc tout simplement, il a pu dire à tous les chercheurs « C'est un exercice qui est déjà prévu. » Ils l'ont peut-être un tout petit peu avancé, mais il n'y a rien de surprenant là-dessus. Ces navires n'ont pas ces capacités que vous êtes en train de leur prêter, donc en fait, ça ne peut pas avoir cette signification-là. Donc ça a permis à tous les chercheurs du IISS, d'un seul coup, d'avoir une vision claire, de ce qui pouvait ou ne pouvait pas se passer avec ces navires russes, et aussi simplement de comprendre qu'est-ce qui se passait.
Donc il y a la fertilisation croisée à l'intérieur de l'ISS. Mmh. C'est-à-dire, là, il ne serait aujourd'hui, je crois, pas possible de faire une military balance qui se tiendrait sans qu'il y ait cette fertilisation croisée et vice-versa. C'est-à-dire l'activité de recherche elle-même et notamment les exercices comme le Strategic Survey qui est un annuel qui évalue l'évolution de la situation stratégique dans les différentes parties du monde et n'aurait pas la richesse qu'il a sans cette toile de fond du Strategic Survey. Et là, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est que c'est un outil qui a, bien entendu, des limites. Il ne peut faire que ce qu'il sait faire. Il sait établir des données, caractériser les différentes choses qui sont comptées. C'est une comptabilité, hein, fondamentalement. Donc, il ne peut pas prétendre faire ce que les Soviétiques et parfois, et plus tard, avec Andrew Marshall, les Américains se plaisaient à faire, c'est-à-dire du net assessment, c'est-à-dire de tirer la dérivée ultime de l'analyse comparée des forces. En intégrant des données qui ne se prêtent pas à une comptabilisation, à une comptabilité numérique.
Oui, par exemple, le positionnement géographique ou stratégique.
Le positionnement géographique, le niveau de l'entraînement, les heures de vol, et toutes ces choses-là. Alors, on essaye, avec un certain succès d'ailleurs, à intégrer des éléments qualitatifs comme cela, et ça a beaucoup progressé au fil des années, mais on ne pourra jamais en faire, et on ne devra d'ailleurs jamais en faire, le cœur, c'est cette capacité que nous avons d'agréger les données. Quitte à ce que par ailleurs, et notamment à travers d'autres exercices d'évaluation, l'analyse annuelle de l'évolution des conflits, l'analyse annuelle de la situation stratégique, et de pouvoir prendre en compte ce que j'appellerais les éléments de net assessment. Et l'autre chose, et il ne faut pas le sous-estimer, le millimeter avance n'est pas classifié. Elle coûte cher, parce qu'elle est très chère à compiler, Mais vous pouvez aller dans quelques bonnes librairies, vous pouvez aller chez Galignani à Paris, acheter votre exemplaire de la Military Balance. Et,
on va revenir dessus parce que c'est passionnant. C'est vraiment le fond du problème.
Vous retrouvez dans la communication politique et publique avec des situations. Et je me souviens toujours d'un ancien chef de l'état-major particulier de Mitterrand qui me disait, moi je prépare toujours les discours du président sur les sujets stratégiques en utilisant la military balance, parce que là, je sais que quoi que je puisse proposer comme texte de discours, que je ne révélerai pas par inadvertance à des données classifiées, et les gens qui en manient ont parfois de très grands problèmes à retenir ce qui est classifié, ce qui n'est pas classifié. Ils baignent là-dedans tous les jours, et donc ils deviennent d'une prudence excessive dans le maniement des données, de peur de franchir les nuages. Avec la military balance, ils savent qu'il n'y a pas ce problème.
Et parce que du coup, ça pose une question qui est très réelle, qui est l'usage qu'on peut en faire. Alors je l'ai dit, c'est incroyablement complet et approfondi, mais il y a clairement plusieurs niveaux de lecture. Il y a des passages sur les grandes évolutions régionales ou sur les générations d'équipements qui sont précises et intéresseraient sinon tout le monde, au moins la plupart des auditeurs du podcast. Et puis, il y a tous les détails sur les équipements dont seule une poignée de gens ont vraiment eu, typiquement, moi, j'ai pas besoin de connaître la motorisation des vedettes de garde-côtes de Singapour. Pourtant, je fais une émission sur les questions de défense deux fois par semaine. Si j'ai une question dessus, je serais très content de le trouver. Mais ça paraît pas infiniment probable. Donc la question, c'est qu'est-ce que c'est que cet outil et pour qui précisément il est fait, puisque vous avez commencé à le dire, et on peut le préciser aux auditeurs qui seraient intéressés. Je vais pas dire ne l'achetez pas, mais enfin réfléchissez bien, parce que c'est très très cher. Je crois que le prix public, c'est plus de 700 euros. Et vous pouvez le trouver d'ailleurs dans certaines bibliothèques, notamment au CDEM, le Centre de documentation de l'école militaire. Mais ça signifie quelque chose, ce prix. C'est un signe. Même s'il n'est pas inédit dans le monde de l'édition scientifique anglo-saxon, mais ça montre que c'est à destination des institutions ou des entreprises, en tout cas en priorité. Donc voilà, ma question c'est quel est le positionnement, qui ça vise et pourquoi ? Yoann Michel, peut-être ?
Ben, en fait, je peux répondre d'une manière un peu particulière, parce que la première fois que j'ai rencontré le Military Balance, c'était ici, à l'IRSEM, quand j'ai commencé mon stage.
J'ai oublié de le dire, mais vous êtes un ancien IRSEM, ça,
oui,
vous connaissez la maison.
Je connais un peu les murs. Donc voilà, la première fois que je suis arrivé ici, le premier jour de mon stage, mon chef Hugo Meyer, mon maître de stage, me présente le Military Balance en me disant « Bon, écoute, pour la base de données que je te demande de fabriquer, j'ai besoin que tu utilises cette source-là. » Le but était de faire une analyse comparative des forces américaines, britanniques et françaises dans le Pacifique, les forces qu'elles avaient de manière permanente, les forces qu'elles déployaient là en exercice, tout ce petit univers. Et en fait, j'avais besoin de croiser des chiffres depuis 1989. Le seul endroit où je pouvais trouver depuis 1989 jusqu'à aujourd'hui la liste de tous les déploiements de toutes les forces américaines surtout, et un petit peu françaises et encore moins britanniques dans la région, c'était le Military Balance. Donc ça, c'était mon activité de chercheur, et c'est comme ça que j'ai commencé. C'était compiler les données pour pouvoir après les utiliser sur Excel. Le jour où j'ai découvert la base de données d'ailleurs du Military Balance Plus, j'ai eu un petit serrement au cœur en voyant que ce que j'avais passé des mois à compiler sur des feuilles Excel était désormais téléchargeable en deux clics.
C'est le destin de ceux qui font des fichiers Excel que de les voir se périmer immanquablement.
Voilà. Alors maintenant, j'ai une meilleure place dans la chaîne puisque mes fichiers Excel deviennent des livres. L'essentiel de mon travail, c'est de compiler des fichiers Excel.
Mais dans les autres utilisations. Voilà, qui est-ce que ça vise
alors,
et comment donc,
alors, il y a la Military Balance papier, le truc là qui pèse lourd et qui coûte.
Qui fait ployer la table, et
qui coûte de l'ordre de 500 livres. Ce n'est pas un prix qui est hors d'atteinte pour des institutions civile, y compris des grandes bibliothèques universitaires. Moi, j'ai découvert la Military Balance quand j'étais tout jeune étudiant à Sciences Po, à travers la bibliothèque de Sciences Po. Et j'étais complètement sidéré. Je me suis dit, mais comment est-ce possible ? Comment ils ont fait ? Parce que en France, à l'époque, on la connaissait très peu. Malgré le fait que Raymond Aron était à l'époque le président de l'ISS. Et là, pour le coup, toute personne qui s'intéresse à la stratégie va pouvoir utiliser, pour les parties qui l'intéressent, va pouvoir utiliser cet instrument papier. La Military Balance Plus, la Military Balance en ligne, la version numérique, ça... Là, pour le coup, on est davantage dans du coût humain. Et ça coûte beaucoup plus cher.
C'est-à-dire et là, en fonction des besoins de telle ou telle institution.
Et, pour le coup, on est dans des logiques du style et combien de personnes est-ce que ça peut intéresser dans tel ministère de la Défense, français, américain, que sais-je, quel type de niveau d'accès vous intéresserait-il, et on négocie le prix. Là, on est dans du coût humain. On n'est plus, si je puis dire, dans la recherche universitaire ou dans le débat public. Donc on est là pour le coup, on est sur un produit massif dérivé.
Ouais, quasi professionnel. Yann Michel.
Oui, professionnel. Non, carrément professionnel.
Carrément professionnel. En fait, il y a deux logiques. Donc, le livre, il est toujours censé se glisser dans n'importe quel attaché case. Là, aujourd'hui, je suis venu avec deux, l'édition 2020 et l'édition 2019.
Ça témoigne de votre force physique.
J'ai l'avantage d'être également réserviste dans l'armée de terre, ce qui permet de temps en temps de s'entraîner un petit peu. Mais voilà, je suis aussi gros que mes bouquins. Mais au-delà de ça, en fait, voilà, il y a vraiment deux publics, et on le voit très bien d'ailleurs, c'était ici, à la bibliothèque, au CDEM, là, juste à côté de nous, la base de données est disponible. Parce que effectivement, il y a des chercheurs ici qui vont avoir besoin d'accéder à des données un peu mises à jour. Et certaines institutions de l'école militaire ont un accès privilégié, qui en plus leur permet de télécharger les données sous format Excel. Exactement ce dont je rêvais quand j'étais là il y a quelques années. Et qui permet à un chercheur, en fait, de faire la même recherche à toute vitesse. Mais en réalité, le truc, c'est que j'ai rencontré le Military Balance en papier pour la première fois quand j'étais ici à l'IRSEM, et je me suis rendu compte, après coup, que je le connaissais depuis des années. À chaque fois que j'ouvrais Le Monde ou le New York Times et qu'il y avait le moindre conflit armé quelque part ou le moindre début de conflit, tension quelque part, en fait, les chiffres, il y a toujours en bas à droite, IISS, Military Balance. Ce qui devient particulier quand on commence à travailler là-dessus, puisque d'un seul coup, il y a le poids quand même qui s'affiche sur les épaules, c'est « mon Dieu, je suis en train de faire le dictionnaire ». Donc c'est particulier, mais en réalité, on le croise, et le public le croise sans s'en rendre compte, quasiment tous les jours, de bien des manières. We'll be right back.
Mais dès lors, tout ce que vous nous décrivez, ça pose aussi la question de la plus-value et du coup, bah forcément, de comment il est fait. C'est ce qui nous amène à entrer un peu dans la salle des machines, disons, du Military Balance, c'est-à-dire comment est-ce que vous procédez. Vous avez commencé à en parler un peu tout à l'heure, François Hesbourg, mais on va entrer vraiment dans le détail. C'est-à-dire, toutes ces informations, d'où est-ce que vous les tenez, dans quelle mesure est-ce que ce sont les pays qui vous les donnent. Et bon, ça va poser aussi tout de suite la question, mais on va entrer dessus, mais des problématiques de désinformation et de vérification qui sont forcément là. Je sais pas, Yoann Michel, pour
moi. Oui, ben, en gros, une fois le livre de l'année précédente terminé, imprimé, présenté, donc ce qu'on est en train de faire, on attaque directement l'année suivante. Et c'est simple, on a chacun notre petite manière de procéder, mais globalement, on revérifie point par point chaque élément du livre. Donc il y a la recherche active sur une donnée, voilà, je cherche les chars spécifiques de tel pays, mais également tout simplement...
Et vous les cherchez où les chars?
Alors, je vais le faire. Simplement, déjà, il y a tous les pays qui ont la chance d'avoir un parlement qui contrôle ses forces armées. Généralement, du coup, il y a une publication parlementaire. Je vais aller voir le site de l'Assemblée nationale ou du Sénat et je vais trouver tel député ou tel sénateur qui aura posé la question au ministre et j'aurai le chiffre exact de disponibilité. Oui, parce que j'aurai le nombre de chars, mais j'aurai également leur disponibilité, ce qui est une information particulièrement intéressante, leur prix parfois, le prix de l'entretien. C'est tout un ensemble d'informations qui sont disponibles. Ensuite, il y a la presse, qui est le deuxième et sans doute le plus important pour moi. Énormément, je pense que 97% de ce qu'on trouve est en fait dans la presse. Et essentiellement, les petites presses régionales. Si vous voulez avoir la meilleure information sur tel régiment américain qui est déployé quelque part dans le monde, en fait, vous allez avoir...
Je vais vous raconter une anecdote. Pendant les années 30, donc bien avant qu'il y ait la Military Balance, et il y avait un boutiquier, je crois que c'était boutiquier, je ne sais plus ce qu'il vendait, suisse, et qui...
je ne sais pas où ça va, mais j'adore cette histoire déjà.
Qui s'était mis en tête de constituer un registre destiné à la publication et de l'ensemble des unités de la Wehrmacht recréée, donc on est en 37 ou 38. Et il publie son petit bouquin, et il se fait enlever par la Gestapo, qui lui demande, mais comment vous avez fait? C'est sans les informations classifiées, vous travaillez pour qui? Et le gars... arrêtez-vous là, je suis un boutiquier, j'ai fait ça dans mes heures creuses, le samedi, le dimanche, et ouais, vous avez fait ça comment? C'est l'intelligence service. Je vais vous expliquer. Et voilà les titres des journaux que j'ai utilisés. Et là, le gars, il écumait la presse locale allemande.
Encore aujourd'hui, ça marche comme ça, c'est-à-dire la presse quotidienne
aussi encore comme ça. Alors évidemment, il y a des endroits où ça marche pas. En Corée du Nord, vous aurez du mal.
Oui, mais la presse quotidienne régionale en Corée du Nord est plus qu'elle était malheureusement.
Ah, c'est terrible. Non, et tout
Yann Michel.
Mais en fait, donc après la presse, il y a le deuxième.
On va rester. Du coup, vous regardez des journaux hyper locaux.
Voilà. Locaux ou pas. Hein,
ça vous parle des régiments, de quel type de chars.
Alors,
de char,
le baptême d'un sous-marin.
Voilà, il va y avoir le baptême d'un sous-marin, il va y avoir tel exercice dans telle ville où les photos sont publiées, il va y avoir tel... il va y avoir, au Sénégal, tel commandant qui parle de son unité, qui parle de ses nouveaux matériels avec fierté. Et en fait, tout le monde dans le pays en question est au courant. Mais quand on travaille sur tous les pays de la planète, parce qu'il y en a quand même 171 dans ce petit bouquin, on peut pas... Enfin, voilà, on collecte. Alors là, Internet rend la vie tellement plus simple. Et en plus, on a plusieurs langues dans notre équipe. Donc, on collecte. Et après les journaux... Le meilleur moyen, après la presse, c'est donc les réseaux sociaux, ce qui est aussi un moyen d'accéder aux journaux en question. Mais là-dessus, on a une communauté énorme de geeks, de ce qu'on appelle les trolls chez nous, qui passent, et qui peuvent être professionnels ou pas, mais qui vont collecter des informations.
Mais en fait, ce ne sont pas des trolls, hein. C'est vraiment des geeks.
Oui, mais exactement. Des mecs comme nous, et ils ne le font pas remonter, ils le font remonter pour tout le monde. Il y a des journalistes qui le mettent en ligne, et des gens qui le font remonter pour tout le monde. Et en plus de ça... on a la vie des unités elles-mêmes. Par exemple, dans l'armée française, on a tout un ensemble d'unités qui publient. Et autre anecdote.
Ah, mais ça, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, c'est par ailleurs une tendance qu'on a vu arriver depuis récemment, notamment par exemple sur Twitter. Et on voit arriver des chefs de corps, des chefs de régiment, des chefs de bataillon qui publient, qui parlent de leurs exercices. C'est intéressant. Bah oui, du coup, votre vie devient de plus en plus facile grâce à ça.
Voilà, et là-dessus, même parfois, ça devient trop facile. Puisque, alors, au bout d'un moment, on commence à connaître les têtes. Je me souviens quand j'étudiais un régiment de missiles S-400 en Crimée. Simplement, la vidéo, au moment où on devait identifier à quel régiment appartenaient ces batteries de missiles qu'on avait vues sur un journal télé.
Donc, S-400, c'est russe.
Oui, le S-400 russe, pardon. Voilà, déployé en Crimée, la question, c'était est-ce que c'est une nouvelle unité ou est-ce que c'est une unité déjà existante ? Là-dessus, on voit apparaître sur un journal télé obscur du fin fond de la Russie le visage d'un chef d'unité et mon chef derrière moi fait « Ah bah oui, ça c'est le commandant de telle unité ». C'est parce qu'aussi à force, on finit par reconnaître un peu plus facilement. Si une personne qui a autre chose à faire de ses journées regarde le même journal télé, il va rien voir. Mon chef était capable de reconnaître cette personne parce qu'il l'avait vu dans un reportage télé plus tôt. Et après, il y a ce que ces unités publient sans se rendre compte. Je me souviens d'un pilote d'un appareil de renseignement qui, lors d'un meeting aérien, me disait, avec un grand sourire aux lèvres, « Ce qui est bien, c'est que nous, vous n'entendrez jamais parler de mes missions. » Et je lui ai demandé, « Votre mission, il y a 2 semaines en Jordanie, ça s'est bien passé ?» Puisqu'en fait la coalition avait simplement publié une photo de cet appareil en pensant que puisque c'était pas un appareil américain, ils s'étaient dit c'est une bonne manière de montrer qu'on travaille en coalition. Manque de bol pour eux, au premier coup d'œil quand on regardait cette photo, on savait exactement quel était l'avion et on savait qu'il n'y en avait pas beaucoup sur Terre et donc on savait exactement à qui on avait affaire.
François Esbourg ?
Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors et encore une fois, il s'agit d'une base de données et qui utilise les méthodes que nous venons d'indiquer un petit peu comme le font d'autres organismes mais qui ne travaillent alors là pas pour consulter des bases de données, mais pour suivre des événements. Nous ne suivons pas des événements, on n'est pas comme Bellingcat, si je puis dire, pour prendre...
Alors Bellingcat, on va juste rappeler, c'est un organisme qui, sur Internet, notamment sur Twitter, fait vraiment du renseignement en open source, c'est-à-dire, on en avait parlé dans un podcast il y a longtemps avec Paul Charron, c'est-à-dire à partir vraiment d'images Google Maps, etc., sont capables de reconstituer, d'essayer d'enquêter sur un fait divers.
Des choses très différentes.
Et sans aucune classification, sans rien du tout, c'est juste ce qu'ils trouvent sur Internet.
Alors, on utilise...
On va juste préciser, ce sont des résultats incroyables. Une enquête de Bellingcat, c'est incroyable.
C'est la puissance que confèrent les moyens en ligne est quelque chose d'énorme. Mais alors du coup, effectivement, bon, la Military Balance, ça a toujours été, entre guillemets, notre base de données, comme d'autres ont leur base de données dans d'autres domaines. Mais on est entré dans une logique de big data. Parce qu'effectivement, on est amené à manier des quantités, à brasser des quantités de données, à les organiser. C'est pour ça qu'on a pu faire, après beaucoup d'années d'hésitation, la version numérisée.
Le
Military Balance Plus. Et on avait commencé à y penser dès la fin des années 80, quand j'y étais. Et en fait, on ne savait tout simplement pas organiser les datas comme on sait le faire de nos jours. Et il y avait eu 2 ou 3 tentatives qui ont très rapidement avorté. Et maintenant, on est au contraire, on est en plein dedans. Ça change aussi, quelque part, la puissance... Ça accroît la puissance du produit, non pas nécessairement au plan politique, parce que le rôle politique du Military Balance a été important dès le début, il est toujours resté, mais son rôle, effectivement, permettant d'informer des choix, le cas échéant, même techniques. Ça intéresse qui effectivement, les moteurs de vedettes singapouriennes, ça peut intéresser des gens qui ont envie de vendre des vedettes avec d'autres moteurs.
Mais sur la puissance, là, y a le, que nous offre Internet, il y a un autre truc qui est incroyable, c'est l'accès aux images satellites. Aujourd'hui, on a accès à des images qui, il y a 10 ans, étaient l'apanage uniquement d'État. Le fait que derrière mon ordinateur, je puisse consulter des images satellites qui sont pas si vieilles que ça, ça aide considérablement. Surtout quand on publie un livre qui est annuel, donc on n'a pas besoin non plus, on déplace pas des divisions, donc on n'a pas besoin d'images en temps réel, mais on a accès à une masse d'informations absolument géniales.
Mais du coup, c'est très bien parce que ça pose la question. La question de ce qui vous protège, disons, de la précision de vos données, et ce qui vous protège notamment des risques de désinformation. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous faites, dans une certaine mesure, alors c'est fait en open source, en libre accès, mais c'est exactement ce que fait le renseignement militaire.
Ou ce qu'il devrait faire.
C'est-à-dire, il s'agit, une partie du renseignement militaire, c'est de connaître les capacités de tout le monde et de savoir ce qu'il peut faire. Évidemment, vous n'avez pas des moyens d'investigation aussi considérables que les différentes armées du monde qui se lancent là-dedans.
On ne veut pas en avoir non plus.
Exactement. Donc la question, c'est à la fois comment est-ce que vous procédez, et peut-être passons par l'anecdote. Est-ce que vous avez un exemple de moment où vous avez pu établir un décalage entre ce que prétendait un pays et ses capacités réelles, dans un sens ou dans un autre, d'ailleurs, que ce soit pour les minorer ou que ce soit pour les gonfler à des fins de puissance? Alors, je ne sais pas.
Je vais répondre par un détour. Et il y a des pays qui refusent ou qui refusaient. Moi, je parle plus au passé que. Et y compris des pays qui ne sont pas des royaumes ermites. Israël, par exemple, ne donnait jamais rien. Singapour ne donnait jamais rien. La Corée du Sud ne donnait jamais rien.
Et donc ne publiait aucune donnée.
Ne publiait aucune donnée, sauf le cas échéant, lorsque, et pour des raisons d'opportunité politique ou stratégique, ils voulaient montrer qu'ils avaient une capacité. Ça peut arriver. Mais rien qui ne s'apparente à une military balance. Et pourtant, nous y arrivions à travers la presse, et même avant les réseaux sociaux. Et il y a des geeks dans tous les domaines sur la planète. Et vous avez des mecs, ben, leur passion, c'est les sous-marins sud-coréens. Et bravo, vous trouvez un mec qui passe sa vie à regarder la chambre. Voilà. Et notamment sur la Corée du Sud, on avait de très grandes incertitudes sur le nombre et la nature des sous-marins que les Coréens du Sud possédaient, parce qu'ils voulaient garder tout ça secret à cause de la menace nord-coréenne. Ils avaient des raisons de le faire. Ben, on y arrivait à travers les geeks, à travers les journaux, parce que là encore, il est très difficile d'empêcher les gens de manifester leur fierté.
Oui, surtout dans une région, quand il y a une base, ben en fait, ça fait partie de la vie des gens.
Ça fait partie de la vie des gens, et parfois de la mort des gens, c'est-à-dire les décès d'un officier apprécié. Vous avez, bien sûr, le journal local, il va passer un truc. S'il ne le fait pas, les gens du CRU en voudraient au gouverneur local, et ainsi de suite. Donc, on y arrive. Pendant la guerre froide, non, moi, j'ai le souvenir... À un moment donné, alors là, pour le coup, c'était les Américains qui avaient essayé de faire croire que les SS-23 avaient qui était un missile de 400 km de portée à l'époque, nucléaire et conventionnel, et ils voulaient faire croire que ces missiles étaient plus nombreux et avaient une portée plus longue que ce que nous pensions. Et j'ai seulement découvert beaucoup plus tard pourquoi les Américains avaient tenté de nous rouler dans la farine, parce que les Américains voulaient à tout prix les faire entrer dans la comptabilité à des forces nucléaires à portée intermédiaire lors de la négociation du traité. Les Soviétiques, évidemment, ne voulaient pas. Les Soviétiques, en termes de définition de ce qu'étaient les forces nucléaires intermédiaires jusqu'à l'abrogation du traité par les Américains puis les Russes l'année dernière, eh ben les missiles de moins de 500 km de portée n'étaient pas dedans. Et donc les Américains essayaient de vendre la fausse monnaie. Mais ils ne nous ont pas eu. Je veux dire, c'est
comment vous avez réussi?
On avait suffisamment...
Parce que vous ne les avez pas
on n'est pas allé les voir, mais il y a des tas de pays dans l'OTAN. Ils font leurs propres évaluations. On demande à un copain qui travaille, un geek qui travaille sur l'arsenal est-allemand à l'époque, que sais-je, disant pour toi la SS-23 c'est quoi? Et le gars il dit j'ai un truc de 400 km de portée, tout le monde sait ça.
Ça joue aussi beaucoup sur la porosité entre le monde militaire, le monde de la recherche et le monde des industriels.
Absolument. Donc, alors, est-ce qu'on a...
C'est-à-dire cette porosité que souvent on critique beaucoup, pour plein de raisons, notamment politiques, en fait, ça fait partie de ces valeurs ajoutées. Il y a une raison pour cette porosité, c'est aussi que ça permet une transmission d'informations et, disons, au moins une certaine fiabilité dans un certain nombre de situations.
Moi, je n'ai pas le souvenir de cas significatifs où on se soit... planté parce qu'on serait fait manipuler et on a fait, bien sûr, tout le monde fait des erreurs, hein, je veux dire, on n'est pas du tout à l'abri, mais les erreurs qu'on a faites étaient d'un autre ordre, c'est-à-dire des erreurs de méthodologie ou l'adoption de méthodologies contestables, notamment dans la comparaison des dépenses militaires, qui est un sujet infiniment délicat et difficile, et à la fin des années 90, j'avais provoqué un changement dans l'équipe parce qu'il y avait un mec qui voulait à tout prix imposer une méthodologie pour des raisons qui lui étaient propres, mais qui n'étaient pas les nôtres.
On n'a pas le temps d'entrer là-dedans, mais il n'y a rien de plus politique que ce qu'on fait entrer ou pas dans les dépenses militaires. Est-ce qu'on fait rentrer les pensions? Est-ce qu'on fait rentrer... Enfin bon, peu importe. Mais alors, Johann Michel, peut-être un souvenir, enfin, ou une histoire, vous, appelons ça du debunking, en faisant un anglicisme atroce, mais disons de comparaison entre... une volonté de projection de puissance, qu'elle soit haute ou basse, et la vérification qui a pu en être faite.
Alors, il y a tout un ensemble de pays qui sont généralement plutôt petits, qui ont tendance à afficher sur le papier, en tout cas, ils aiment bien, dans telle ou telle conférence de presse, dire qu'ils ont ce type de matériel. Et sur une photo satellite, on va voir l'état dans lequel sont les véhicules en question, et le parc de véhicules est visiblement, depuis l'espace, rouillé. Donc ça c'est un détail.
Si on voit la rouille depuis une orbite géostationnaire, c'est mauvais signe.
C'est pas bon signe. Mais de la même manière, hein, réception de nouveaux matériels pour une mission de l'ONU. Donc on voit l'Union européenne qui donne des véhicules, et en fait on voit les véhicules qui avaient été donnés 3 ans plus tôt, qui sont en ruine de l'autre côté de l'image. Donc en troisième plan, on voit les anciens véhicules qu'on va donc nous pouvoir rayer de nos données, mais qui restent en théorie dans l'équipement. Ouais. Après, il y a des situations beaucoup plus ubuesques où un attaché de défense d'un pays à qui je demandais qu'est-ce que vous pensez de mon estimation, parce que c'était vraiment un pays qui était compliqué en Afrique de l'Ouest et vraiment difficile de savoir quelle unité existait vraiment ou pas, c'était vraiment obscur. Je lui présente les données, il me dit, vous savez, je pense que vous avez de meilleures informations que mon ministre. Ce qui est pénible pour l'attaché de défense en question, pénible pour le pays en question, mais qui montre aussi parfois l'importance qu'on n'avait pas soupçonnée du travail qu'on fait en offrant, y compris à l'attaché de défense de son propre pays, une vision de ce qui se passe.
Et puis par ailleurs, comme principe, il ne faut jamais sous-estimer la désorganisation d'une grande organisation, spécialement militaire.
C'est tout à fait vrai. Et après, on a des cas plus... quand on avait fait la carte des forces qui pouvaient frapper la Syrie, les forces occidentales qui pouvaient mener les opérations qui ont lieu, l'opération Hamilton, on avait simplement observé, donc il y avait la partie publique, et en fait on avait simplement rajouté un sous-marin qui apparaissait sur une photo satellite quelques jours plus tôt, et qui en fait nous permettait de savoir que tel sous-marin était en fait en route vers la région et pouvait réaliser des frappes, parce qu'on connaissait ce type de sous-marin. En Russie ou en Chine, par l'accumulation d'informations comme, le nombre de grillages ou ce genre de choses, on peut caractériser quelle est la base et parfois lui donner un caractère nucléaire alors qu'il n'est pas censé en avoir.
Alors maintenant qu'on a fait l'histoire, qu'on a fait la méthodologie, disons la politique du Military Balance, j'aimerais qu'on entre vraiment dans cette édition 2020, et bon, sur les grandes conclusions, ce qui revient un peu à faire un bilan de l'évolution du secteur de la défense dans le monde sur plusieurs années, ce qu'on fait pas souvent, donc c'est très bien qu'on puisse l'aborder. Peut-être première chose, si on prend un bilan chiffré, on se trouve actuellement toujours dans une phase de rebond, notamment en Europe, c'est-à-dire à l'échelle de la décennie, clairement il y a eu une grosse chute avec la crise financière de 2008, et on atteint à nouveau à peu près les niveaux de dépenses d'avant la crise, et bon, c'est particulièrement intéressant parce que la deuxième grande caractéristique, c'est qu'il y a aussi une inquiétude sur l'aide militaire américaine, qui est une des grandes dominantes dans l'équilibre disons, militaire actuel, puisqu'il y a un recul, enfin, en tout cas il y a des signes de recul. Donc bah, je ne sais pas, comment est-ce qu'on pourrait... C'est très difficile de faire un grand tableau de la situation budgétaire, mais si, quand même, ce rebond, comment le caractériser, ouais. Comment alors, le qualifier, François?
Je vais être un peu ambigu, parce que d'un côté, parmi les chiffres de la Military Balance les plus regardés, il y a les chiffres des dépenses militaires. Et les journaux adorent, et les médias adorent utiliser les données de la Military Balance pour comparer les dépenses militaires, et ils ont raison, parce qu'on fait ça sérieusement. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut tout de suite ajouter que, quand même, à la sortie, ce qui compte le plus, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'argent. Et ça me sert à quoi de savoir que la Russie dépense moins que l'Arabie Saoudite pour sa défense? Bah, ça me sert tout simplement à conclure que des gens compétents avec un argent limité peuvent faire quelque chose de sérieux, alors que des gens qui ont un argent illimité peuvent témoigner d'une incompétence tragique, titanesque, monumentale, et ce qui est le cas en l'occurrence. Et donc je suis extraordinairement et je suis un peu comme un médecin par rapport à une molécule, hein, et la question est de savoir, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette molécule? Alors évidemment, ça ne veut pas dire que les médias ont tort de mettre en exergue les dépenses militaires, puisque le chiffre des dépenses militaires est un indicateur considéré comme politiquement et stratégiquement important. Quand Monsieur Trump dit 2%, évidemment, la comptabilisation des budgets militaires prend une importance politique et stratégique opérationnelle.
Non, mais alors je vais juste préciser, cela dit, il y a aussi des... C'est-à-dire, c'est ça aussi l'avantage du Military Balance, c'est que ça permet de voir en un coup d'œil un certain nombre de choses, notamment du fait de l'appareil graphique, qui est extrêmement beau, extrêmement bien fait. Mais par exemple, dans le grand chapitre qui est au tout début sur les dépenses militaires, il y a un truc qu'on oublie, c'est des camemberts, quoi. Il y a des camemberts sur les dépenses, Et à un moment, il y a un camembert qui montre que les dépenses militaires des États-Unis, c'est la même chose que les dépenses militaires des 15 pays suivants, même légèrement supérieures. Et ça permet quand même... Enfin, je veux dire, c'est aussi le grand avantage, c'est que en jetant un coup d'œil, on se rappelle que, bah oui, en fait, les États-Unis, c'est pas plus que la Chine, c'est pas plus que la Chine et la Russie, pas plus que la Chine, la Russie et l'Europe, c'est plus que les 15 pays suivants. Ça permet de vraiment de se souvenir de niveaux de dépenses incroyables.
Mais
quoi.
C'est là où ça vaut la peine de travailler sur le military balance dans la durée. Parce que le même camembert, il y a 10 ans, il montrait quoi ? Que les États-Unis dépensaient autant que tous les autres pays du monde, sans aucune exception. Et il en restait encore. Et que donc, le camembert qu'il faudrait faire de temps en temps serait le camembert de comment ont évolué, comment a évolué cet indicateur-là.
Mais c'est l'avantage des statistiques, c'est que ça permet de faire des courbes sur plusieurs années.
Et c'est l'avantage d'ailleurs du Military Balance Plus qui lui remonte jusqu'à 2008. Voilà. Et on peut d'un seul coup faire sortir. Et alors là, si vous trouvez que les graphiques sont sympathiques dans le bouquin, dans la base de données, c'est génial. Fabuleux. Vous avez des moyens de jouer avec les données, de les croiser dans tous les sens, qui sont absolument fabuleux. Enfin, mon ancienne collègue Lucie avait fait un boulot épatant là-dessus et tous les autres. Mais voilà, c'est génial. Et en plus, ça permet d'utiliser. Enfin, le livre, c'est pas juste les dépenses. C'est également, par exemple, dans le dernier, quelle est la part des pensions, des pensions de retraite dans le budget. Est-ce que c'est comptabilisé ou pas? Parce que l'OTAN a tendance à les comptabiliser, mais il y a des pays qui les sortent malgré tout. Et par exemple, pour la Belgique, c'est plus de 35% du budget du ministère de la Défense, c'est des pensions, alors qu'en France, ça va être autour de 20%. Et c'est intéressant comme ça de pouvoir croiser ces données. Et en fait, dans le livre, on a ces informations.
Et si vous prenez, par exemple, le budget militaire américain et que vous l'extrapolez, vous constatez qu'il est plombé par les dépenses sociales, puisque l'armée américaine assume non seulement les retraites, mais aussi la santé, la tutti quanti, la sécurité sociale, qui est un objet qui n'existe pas aux États-Unis comme en Europe. Ben, le Pentagone a une sécu, et elle coûte évidemment, naturellement, très, très cher. Mais je voudrais faire une autre observation. L'équipe de Military Balance, c'est pas une équipe de comptables, même si j'ai dit qu'on comptabilisait. Et l'une de ses grandes forces, c'est de savoir lever le nez par rapport aux chiffres, aux données, et de pouvoir tout d'un coup faire apparaître une tendance que l'on ne peut faire apparaître qu'à travers la comptabilité. Et c'est ce qui arrive cette année avec un tableau sous forme d'une grande planche qu'on peut punaiser à son
mur. Oui, je veux dire, il y a un poster que très gentiment vous m'avez apporté, c'est probablement l'un des posters les plus précieux qu'on puisse trouver. C'est un poster qui fait une sorte de récapitulatif, enfin qui a un atout, enfin voilà, c'est difficile de visualiser certaines choses à partir d'un certain niveau chiffré, et le poster du Military Balance il réussit très bien.
Et que montre ce poster?
Bon, on mettra peut-être une photo, mais je sais pas si on peut le faire.
Enfin, on verra quand on trouvera un moyen de...
On verra, on essaiera de donner une image.
Que fait ce poster? Il montre que les pays qui veulent projeter de la puissance, ben, leur moyen préférentiel de le faire, et notamment pour ce que j'appellerais les puissances de second ou deuxième ou troisième niveau, ce sont les missiles de croisière d'attaque dans la profondeur. Et vous avez une prolifération est très large. Je crois qu'il y a 27 pays dont les outils figurent sur ce tableau. Ça nous dessine un paysage stratégique et militaire et dont on n'avait littéralement pas idée. On n'avait pas idée qu'il y avait eu cette transformation. Ce n'est peut-être pas la transformation la plus importante du paysage stratégique, il y en a des tas d'autres, c'en est une et qui fait d'autant plus sens que les contraintes en matière de contrôle des armements sont en train, héritées de la guerre froide, sont en train de disparaître. Ça, c'est une tendance que nous pointons comme tout le monde.
Mais alors, on va revenir
nous qui l'avons trouvé.
Dans une seconde, sur les très grandes tendances, je voudrais simplement dire, donc, à côté de ces comparaisons, alors chiffrées, on a fait le tour, mais notamment, j'y pense, parce que vous le disiez tout à l'heure, par exemple, Notamment, il y a des conclusions très éclairantes sur le fait que le budget américain continue de monter, mais qu'il y a 2 fois 5 milliards de dollars qui sont consacrés à la construction du mur le long de la frontière sud, et que tout ça, ça rentre dans dans l'augmentation du budget militaire américain. Et c'est des choses que un ouvrage comme le Military Balance permet de revoir en tête. Mais je vous ai demandé à chacun de peut-être d'identifier quelques grandes tendances de ce Military Balance, mais il y en a une que je voudrais simplement engager avant de vous donner la parole et sur laquelle vous faire rebondir. C'est quelque chose dont on parle assez souvent ici, notamment avec Joseph Enrotin, qui est notre partenaire de DSI Magazine, mais c'est la Chine et la Russie. Et notamment, une des grandes tendances qui est sur le long terme, mais qui est très nette en ce moment, c'est la montée en puissance claire et nette, ou en tout cas la montée en gamme des équipements militaires, aussi bien pour la Chine que pour la Russie. Un exemple de ça pour la Russie, c'est le programme SU-57, qui devrait arriver à terme dans quelques années, qui est SU-57 Phelon. Je ne résiste jamais au plaisir de dire les noms de code des avions de chasse, parce que c'est toujours très poétique. Mais la Chine, notamment ce qu'on a vu à l'occasion de l'anniversaire des 70 ans du Parti communiste, avec un certain nombre d'armes hypersoniques qui ont été démontrées. Donc voilà, cette idée... Notamment qu'avec des moyens qui sont limités, même si en Chine notamment ils augmentent exponentiellement, on assiste très clairement à une montée en gamme, à une montée en niveau de deux des acteurs majeurs de la scène militaire mondiale en ce moment, que sont la Chine et la Russie. Peut-être François Hesbourg.
Oui, alors la Russie d'abord. Et la Russie a procédé à une transformation de son mode opératoire basique. La Russie, du temps des tsars, on parlait du rouleau compresseur, les jours pairs et les jours impairs, on parlait du colosse au pied d'argile, et l'Union soviétique n'agissait pas militairement avec la grâce d'une ballerine, et non plus. L'art militaire soviétique et l'art militaire américain, au fond, se ressemblaient beaucoup. Et la Russie, avec des ressources limitées...
Désormais limitées.
Dépensées avec sagacité et efficacité, est arrivée à faire une double révolution, la révolution de l'agilité, c'est-à-dire comment maximiser son influence stratégique par les moyens militaires à des niveaux de risque et de coûts qui soit acceptable à un pays qui a le PIB de l'Espagne. La Russie, c'est un pays qui a le PIB de l'Espagne, et dont le budget militaire, là, suivant la façon de compter, si on est très 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 généreux pour la Russie, c'est 3 fois le budget français. Si on est beaucoup moins généreux, c'est un petit peu moins que le budget français dans son acception la plus large. Donc la Russie, c'est pas exactement le budget militaire américain, ni même chinois. Mais donc la Russie arrive à opérer avec les mêmes atouts que les Français et les Britanniques, c'est-à-dire comment mettre le quantum nécessaire de force le plus vite possible sur le terrain pour obtenir un effet stratégique et avec un niveau de mise suffisamment faible pour que, même si le risque est élevé, que la perte en cas de revers soit acceptable. C'est le contraire c'est littéralement le contraire de l'art de la guerre américain, où la première question que va poser le chef, c'est quel est le maximum de moyens que je peux mettre en place pour pouvoir opérer avec un niveau minimal de risque. Alors dans le cas de la reprise de Mossoul, ça a été 3 ans, 3 ans et de la destruction totale. Et mode d'opératoire américain et de la coalition dont nous faisions
partie.
Parce
que, pour préciser, littéralement pilonner de bombes la ville pour avoir le moindre risque possible.
Alors, c'est pas que les Russes soient plus délicats. Les Russes ont empilé Alep d'une façon abominable, mais ils l'ont fait vite. Et l'agilité, c'est les Français qui décident en quelques heures de sauver Bamako, dont les premières forces arrivent 5 heures plus tard, qui au bout de 48 heures ont écarté le danger, et au bout d'un mois ont ramené les malfaisants jusqu'à la frontière de l'Algérie. Et c'est ça que l'on voit à travers la military balance pour ce qui concerne la Russie. Donc cette agilité, cette immense créativité, et alors là pour le coup héritée de l'Union soviétique, des instituts de R&D russes. Hein.
Donc de recherche et de développement.
De recherche et de développement militaire, et avec... moi, j'ai une certaine prudence par rapport aux effets d'annonce de nos amis russes, parce que quand je vois l'accumulation des différents outils, et notamment dans l'hypersonique, entre ce qui est un engin de cirque et ce qui est un outil militaire efficient, il y a quand même souvent de la marge, et ça, c'est le genre de choses que vous regardez de très près, justement, les gens qui font la military balance. Hein.
Tatiana Michel, pour rester sur la Russie, après on passera à la Chine.
Je pense qu'il y a quand même un truc qu'il faut absolument rappeler, c'est qu'on ne fait pas la même chose avec un dollar aux États-Unis et un dollar en Russie. Et quand on compare les budgets militaires, on pourrait y passer des heures, et il y a des gens qui sont bien plus compétents que moi pour le faire, mais en parité de pouvoir d'achat et en comparaison en termes de PIB, c'est pas la même chose. Il y a différentes manières de croiser ces budgets, et effectivement la Russie investit quand même beaucoup. Et elle est capable de faire beaucoup avec le peu qu'elle a. Et elle a aussi ses lacunes, hein, parce qu'on parle des félons, mais ils vont en produire moins que ce qu'ils avaient prévu, le programme prend plus de temps. Les Armata, ça fait peut-être 3 ans, hein, donc les nouveaux chars de combat russes, ça fait 3 ans qu'on est censé voir apparaître dans les unités ces chars, et que chaque année, on voit l'annonce comme quoi, en fait, ce sera l'année prochaine.
Ils ont copié le F-35.
Voilà, mais c'est. Il faut vraiment que vous fassiez une émission sur le F-35 à l'occasion. Joseph, si tu nous entends. Voilà. mais voilà, je veux dire, c'est comparable en fait au problème qu'on peut avoir dans des programmes occidentaux. Il ne faut pas fantasmer la capacité politique et industrielle russe. Il ne faut pas la minéronner non plus. Certains de leurs équipements sont vraiment d'excellents équipements dans le domaine, et c'est un des chapitres qui est dans l'ouvrage que j'ai devant moi, c'est sur la guerre Electronic Warfare, et c'est là-dessus ils sont vraiment bons, ils sont capables de faire des choses vraiment intéressantes, et on voit également que les Turcs ont été capables de faire des choses assez fascinantes qu'on n'a pas fini d'analyser, et j'ai hâte qu'on décrypte un petit peu tout ça. Mais voilà, sur certains domaines, ils vont être en avance sur nous. Dans d'autres, ils seront à des kilomètres de retard. Et bien entendu, si vous regardez Russia Today, Sputnik, vous aurez tout ce qui se fait de bien, et vous oublierez complètement ce qui se fait mal. Et il y a tous les trucs pas sexy qui intéressent personne, quelle que soit l'armée. Hein. Les camions de logistique, qui sont d'ailleurs pas dans le military balance, mais ont une part énorme dans la capacité d'une armée à se déplacer. Typiquement, c'est aussi la première chose que les armées oublient de financer quand elles ont besoin de visibilité politique. Et là-dessus, en termes de logistique, si la France avait été capable de déployer pour l'opération Serval rapidement des troupes, c'est également parce que ces bons vieux camions qui nous faisaient rire quand dans mon régiment on les regardait au fin fond de la caserne, en fait ils arrivaient quand même à rouler, et ils étaient en nombre suffisant, et ils étaient prépositionnés dans la zone et permettaient d'agir. C'est un problème que la Bundeswehr a en ce moment, l'armée allemande, de savoir combien de brigades ils peuvent réellement déployer en Europe. Une, deux grand maximum, parce que littéralement, ils n'ont pas assez de camions pour les déplacer et d'assurer la logistique derrière.
Vous trouvez un autre sujet dont on n'aurait pas pu imaginer dans le passé qu'il allait figurer dans l'équilibre des forces, et qui va être le genre de choses que l'on va devoir intégrer dans la military balance. C'est l'environnement réglementaire des armées. Parce que si vous avez des camions... Bon, ça c'est déjà bien d'avoir les camions, mais encore faut-il qu'ils puissent traverser des univers réglementaires différents. L'univers réglementaire français, l'univers réglementaire allemand, l'univers réglementaire polonais, pour aller, se prépositionner en Estonie ou en Lettonie. Ben, les règles en matière environnementale, sur le type de carburant, le passage des ponts, que sais-je.
Vous avez une documentation à remplir à chaque fois que vous
passez les formulaires.
C'est marrant, j'avais jamais pensé à ça.
Et l'Union européenne tente, parce que alors c'est en plus le genre de choses que l'OTAN n'a absolument pas fait, et l'Union européenne tente de mettre en place une initiative dite de mobilité militaire dans laquelle on envisage, c'est mal parti pour ce qui est de l'argent, mais a priori, c'est quand même de l'ordre de, je crois que c'est de l'ordre de 5 milliards d'euros.
Aux dernières nouvelles, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien. C'est parce que ben, la PAC, c'est plus
et
important.
Et donc, juste pour uniformiser, juste pour fournir, disons, les conditions minimales de possibilité de déploiement à grande échelle.
Rapide. Le prépositionnement dans la durée, il n'y a pas de souci. Je veux dire, si vous avez 3 mois pour aller en Estonie...
Mais par contre, faire passer un convoi dans la nuit, c'est
voilà,
ça peut être compliqué.
Et ça nous ramène aux dépenses militaires. Le budget militaire russe en parité de pouvoir d'achat, en prenant la définition la plus généreuse, c'est à peu près l'équivalent du cumul des budgets militaires de l'Union européenne hors Royaume-Uni. Et évidemment, on voit bien qui dépense bien l'argent et qui sait le faire fructifier stratégiquement, ce sont les Russes.
Il n'y a pas de problème de documentation pour circuler à l'intérieur du
document. C'est pas forcément que les Russes soient nécessairement plus intelligents, mais ils sont dans un environnement qui facilite la dépense.
Ils n'ont pas toutes les affres du multilatéralisme et des coopérations internationales à affronter. Non, mais alors peut-être j'aimerais juste qu'on dise un mot peut-être de la Chine. Puisque c'est aussi évidemment le grand acteur émergent. On arrive, si ce n'est au terme, mais en tout cas dans les derniers linéaments, d'un grand plan de modernisation de l'armée chinoise qui pond littéralement des navires à une vitesse folle.
Mais qui a
une volonté très nette de constituer une capacité de projection extérieure que la Chine a historiquement à peu près jamais eue. Donc voilà, il y a eu ce grand raout en octobre qui était l'anniversaire du Parti communiste chinois. Qu'est-ce que ça... On en a fait un épisode spécial avec Joseph en retard, juste pour décrypter le défilé militaire chinois. Mais voilà, qu'est-ce que... J'allais dire où est-ce qu'on va et à quel point est-ce qu'on est proche du terme de la pensée stratégique chinoise de ces dernières années.
En termes, pour le coup, des dépenses militaires, elles sont évidemment difficiles à mesurer, mais la Chine est en train de faire l'effort nécessaire pour avoir une armée, des forces armées mondialisées, capables d'action à l'échelle planétaire. Et ce que vous disiez sur dans le domaine naval est particulièrement évident. Si les ambitions de la Chine étaient essentiellement régionales, ils ne construiraient pas grosso modo l'équivalent de la flotte française tous les ans. Ce qui, dans certains compartiments, est le cas. Hein.
Je veux dire, le
frégate ou que sais-je, c'est tout simplement impressionnant. Mais le genre de choses que ne mesure pas la military balance, encore une fois, ça c'est, il y a des angles qu'on ne peut pas commodément traiter. C'est que les Chinois se tournent vers les Russes dans le cadre d'un processus d'apprentissage. Et j'emploie à dessein ce terme d'apprentissage, parce que nous, qu'est-ce qu'on relève ? Les Chinois, ce que tu disais, les moyens de soutien logistique de la Chine, notamment dans le domaine naval, ne sont pas à la hauteur. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus compliqué à construire, mais c'est extraordinairement difficile à articuler dans une organisation. Et les Chinois n'ont pas fait la guerre depuis 1979. Et cette guerre-là, c'était une guerre contre le Vietnam, était une victoire à peu près aussi honteuse que la victoire acquise par les soviétiques contre la Finlande en 1940. Le genre de victoire qu'il vaut mieux éviter. Et les Chinois le savent. Les Chinois le disent, ils l'écrivent. Le débat militaire chinois est relativement plus transparent que d'autres aspects.
On peut constater certains, on peut consulter certains des livres blancs. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont ou faiblement traduits. Donc il faut souvent lire le chinois pour vraiment pénétrer dans les finesses de ce débat stratégique.
Maintenant, les gens qui parlent le chinois ne sont plus rares. Hein. C'est devenu.
Oui, dans notre équipe, on en a deux qui.
Non, mais il y a quand même un droit d'entrée qui est plus important. Il y a une barrière d'entrée. Que pour voir les évolutions doctrinales américaines ou même russes, puisqu'il y a encore un certain nombre de.
Mais les Chinois causent beaucoup. Je veux dire, il y a la réflexion sur la première chaîne d'île, la deuxième chaîne d'île, et ainsi de suite. Tous ces trucs-là, c'est dans la littérature ouverte, et pas simplement sous une forme, expliquée aux enfants dans les livres blancs, mais dans la littérature militaire savante non classifiée. Et donc la Chine est en train de se doter d'un arsenal de superpuissance. C'est pas la Russie. La Russie n'est pas en train de se constituer des forces armées de superpuissance, sauf dans le domaine nucléaire, où elle est restée la superpuissance comparable aux États-Unis, ce qui n'est pas la Chine dans ce domaine-là. Mais pour le reste, les combien de divisions l'armée russe, l'armée russe, c'est, vous regardez les opérations en Syrie, c'est en termes d'hommes à peu près l'équivalent de Serval ou de Barkhane, et en termes de sortie aérienne à peu près l'équivalent des opérations occidentales en Libye en 2011. On n'est pas du tout dans un registre de superpuissance.
Comme peut l'être la Chine. Yann Michel, vous vouliez rajouter quelque chose sur la Chine ?
Oui, je voulais rebondir en fait, mais ça marche pour la Chine, mais ça marche aussi pour d'autres pays. C'est vrai que la partie quantitative de Military Balance a des limites qui sont assez claires et évidentes. L'avantage, c'est qu'elles ne sont pas toutes seules dans le livre. Devant chaque pays, il y a un petit paragraphe qui donne rapidement, alors c'est un trésor d'édition, ce paragraphe, c'est beaucoup de travail finalement, pour arriver à expliquer le niveau d'entraînement général, s'il y a des disparités entre des unités ou d'autres, la logistique, la gestion des munitions, enfin il y a tout un ensemble d'informations qualitatives, et en plus de ça, au début de chaque chapitre, sur chaque zone géographique, donc l'Europe, l'Eurasie pour la Russie, l'Asie et l'Afrique subsaharienne par exemple, il y aura un chapitre, deux chapitres, trois chapitres sur différents pays et également un résumé de la région. Alors bien entendu, la région l'Eurasie, on aura plusieurs pages d'analyse, de description de ce qu'il y a de nouveau, de ce qu'il y a d'ancien également dans l'armée russe tous les ans. La Russie repasse, la Chine repasse. Et alors là-dessus, pour le coup, ces informations, vous les trouvez dedans, tout ce qu'on vient de dire.
Bien sûr. Alors, juste pour terminer, je l'ai annoncé, malheureusement, on n'a pas le temps de le faire, parce qu'on a déjà quasiment dépassé le temps. Mais simplement, je vous avais demandé d'identifier peut-être, une chose chacun, sur laquelle vous voulez attirer l'attention de cette édition du Military Balance. C'est-à-dire, quelque chose, si ce n'est une découverte, mais en tout cas, une grande caractéristique, une évolution depuis l'édition de l'an dernier. François Hesbourg, peut-être vous avez commencé à nous parler de l'évolution des missiles balistiques et de la prolifération qu'on a...
Des missiles non balistiques.
Des missiles non balistiques, pardon.
Il y a ça, mais aussi le processus parallèle qui est celui du démantèlement des logiques de guerre froide. Et non pas dans le sens de la confrontation, mais au contraire des logiques de guerre froide en termes de stabilité stratégique. Et lorsque vous voyez que le traité sur les forces nucléaires intermédiaires a disparu, ce qui ouvre déjà en soi un nouveau chapitre sur les déploiements de forces nucléaires à portée intermédiaire en Asie, parce que le traité interdisait aux Américains et aux Soviétiques, donc aux Russes, de les déployer n'importe où dans le monde. Donc là, on est entré dans une autre logique. Avec le rendez-vous en 2021 du renouvellement et malheureusement de façon tout à fait possible du non-renouvellement du traité sur les armements stratégiques, joint à la logique technique et où on se retrouve avec des armes hypersoniques très difficiles à comptabiliser suivant les règles de l'arms control classique et d'autres engins genre Poséidon, la torpille nucléaire russe qui est censée se loger près d'un port en attendant d'exploser ou des choses comme ça. Et on va potentiellement vers un monde où la stabilité nucléaire stratégique et nucléaire tout court va largement disparaître. Tout le monde s'y met, hein. La révolution de l'hypersonique, bon, pour l'instant...
Donc c'est... l'hypersonique, on va préciser, ce sont ces armes, ce sont ces missiles qui vont à des vitesses extrêmement élevées.
Qui vont à plus de Mach 5,
et 5 fois plus la de 5 vitesse, fois la, plus de 5 fois la vitesse du son, ouais. Et qui donc, en tout cas, pense-t-on, dans une certaine mesure, permettent de déjouer un certain nombre des défenses aériennes et des possibilités d'interception, ce qui, quand on couple ça, effectivement, à une capacité nucléaire, et effectivement, pas ce qu'il y a de plus rassurant dans l'évolution des forces armées de ces dernières années.
Et bon, pour l'instant, c'est un tout petit club, mais si on n'y est pas, on cesse d'être joueur. Donc la France aussi se lance dans l'hypersonique. On va faire voler, en principe, dès 2021, un planeur, je touche du bois quand même, parce que là, entre l'annonce et le moment où c'est censé arriver, il se serait en théorie déroulé à peine 2 ans, ce qui me paraît quand même un tout petit peu court. Mais en 2021, on va faire voler un truc qui s'appelle le VMAX, qui est un planeur hypersonique préfigurant les armes éventuelles, dont l'éventuel successeur de l'ASMPA, qui est le missile de croisière supersonique dont sont dotés les avions français chargés de missions nucléaires. Donc on a vraiment l'impression de se trouver à un moment de bascule. Je suis encore prudent dans mes mots parce que ce n'est pas encore joué. C'est-à-dire si les Américains et les Russes au dernier moment finissent par s'accorder sur le renouvellement de START, les perspectives
du traité START,
je pense que les perspectives seront relativement bonnes pour qu'ils puissent entamer, le cas échéant avec d'autres pays, un processus où l'on pourrait tenter d'établir des règles de stabilité par rapport à ces armements nouveau.
Mais c'est très intéressant et c'est bien d'en parler parce que c'est le problème avec la dissuasion nucléaire, c'est l'invisibilisation totale parce que personne ne s'en sert jamais, Dieu merci. Mais du coup, on a du mal toujours à percevoir les évolutions et notamment les évolutions générationnelles en termes de vecteurs. Voilà. Et du coup, c'est bien d'en reparler une seconde. Yoann Michel, alors peut-être votre point.
Déjà, une première réaction à ce qu'on vient de dire, mais c'est Raymond Aron disait que l'histoire était tragique et qu'on avait tendance à l'oublier. Je pense que c'est malheureux. Heureusement, on l'a encore une fois sous les yeux. Moi, il y avait plusieurs choses que je voulais mettre en avant, mais bon, il y a cette carte murale sur les missiles de croisière que je trouve fabuleuse, parce que vous avez les vecteurs, vous avez les armes, vous avez les pays qui les ont, et voilà, vous les avez. Ça, c'est un pense-bête à afficher sur le mur quand vous en avez besoin, et je trouve ça fascinant. Moi, j'ai tendance à penser que la partie sur l'electronic warfare est un des chapitres les plus intéressants, c'est au début de l'ouvrage, mais vous avez aussi des détails...
Donc la partie sur l'electronic warfare, on va le dire, parce que c'est toujours compliqué, ça n'est pas le cyber warfare, ou ça n'est pas le cyber warfare, c'est aussi c'est notamment la capacité à ce qu'on appelle jammer les ondes, les fréquences dans une région donnée, à brouiller tout, à faire que, en gros... C'est-à-dire, dans les modes de combat hyper mixtes, de techno-guérilla, enfin qu'on a, c'est-à-dire où tout le monde fonctionne aussi en grande partie avec son téléphone portable. C'est aussi important d'être capable de brouiller les ondes. Et il y a notamment deux lignes qui sont très évocatrices où je crois que c'était en Syrie où l'armée syrienne réussit à brouiller les ondes et puis juste à les libérer pour envoyer des textos aux rebelles syriens. Des textos décourageants. Ce que j'ai trouvé ça trop poétique parce que c'est une déclinaison d'une des plus anciennes techniques de guerre psychologique, qui est la diffusion de tracts décourageants. Quoi.
C'est ça, mais là vous pouvez le faire avec des textos sur tous les téléphones qui sont dans la zone. L'armée russe a utilisé cette technique simplement en mettant un petit dispositif à l'intérieur d'un drone, et donc en le faisant voler au-dessus d'une zone, en balançant une émission, ça envoie à tous les téléphones de la région une information qui peut d'ailleurs être une information erronée, le but c'est de provoquer une réaction. Vous avez la même chose quand il y a un brouillage des GPS, hein, ce qui a été observé en Norvège et ailleurs, ce qui peut dans le monde tel qu'on le connaît avoir des conséquences énormes. Et ce qui oblige aussi les armées à s'entraîner en environnement dégradé. Mais concrètement, là, les armées européennes n'ont pas forcément le niveau et l'équipement pour se mettre au niveau de ne simplement que de la Turquie, de la Russie ou d'acteurs. Et surtout, alors là, il y a une prolifération de ces capacités. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un plombier qui, dans sa voiture, a de quoi brouiller un signal GPS. Et à ce niveau-là, ça a des conséquences réelles et ça oblige à avoir une adaptation. Mais au niveau militaire, voilà, il faut s'équiper.
Il faut rappeler que c'est toujours plus facile de brouiller un réseau que de l'établir et de le maintenir. Bon, merci infiniment à tous les deux. Donc, je renvoie évidemment à cette édition 2020 du Military Balance. Alors, on l'a dit, c'est pas forcément ce qui est le plus accessible pour un particulier, mais il y a tout un tas de centres de recherche et de bibliothèques qui possèdent à la fois le livre et la base de données, et on ne peut donc que le recommander. C'est donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues. Vous pouvez nous les envoyer par mail ou sur les pages Facebook ou Twitter de l'IRSEM. Puis n'oubliez pas, tous vos retours sont appréciés, notamment sur iTunes. Ça aide à faire connaître le podcast et ça nous aide à savoir ce que vous en pensez. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.